sa conférence s'intitule « Rythme et chaos dans le système solaire ». Je voulais présenter Jacques Lascar et il m'a dit, je vais demander quelques détails sur son parcours scientifique et il m'a dit non, ce serait beaucoup trop long. Donc voilà, ça me donne mon introduction et ma présentation. Merci Jacques, je crois que tu te présenteras finalement aussi bien à travers ta conférence. Merci.
Bien. C'est traître, hein, les micros HF. Bon, donc je vais parler effectivement du mouvement des planètes. Donc là, il marche. Tout le monde entend bien. Bon, du mouvement des planètes. Et voir un petit peu comment, comment le mouvement a été perçu. Hein, ce mouvement, ce problème de. Tout le monde a entendu parler du problème de la stabilité du système solaire. Et ce mouvement où, en fait, au début, on a surtout cherché la régularité. C'était, par exemple, découvrir que parmi les planètes, parmi les astres, il y avait certains dont le mouvement. Si vous prenez une planète dans le ciel, son mouvement, vous allez d'abord voir qu'elle bouge. Mais si vous la regardez avec beaucoup de nuits de suite, en fait, vous allez voir que le mouvement n'est pas si simple. Voilà, par exemple, pour Mars, on a des rétrogradations. C'est pas forcément un mouvement facile à représenter. Et en fait, donc ça, c'est une... Disons que les Grecs ont eu une représentation, surtout avec Ptolémée, par épicycle, c'est-à-dire par somme de mouvements circulaires uniformes qui permettaient de très bien rendre compte de ces mouvements. Donc là, on avait un mouvement apparent, régulier, hein, puisque quasi périodique. Et par la suite, bien sûr, ça a tenu 2000 ans quand même, hein, 2000 ans. Et en fait, c'est un très beau modèle physique qui ressemble à d'autres modèles physiques actuels. Mais il n'y a pas de physique dedans, c'est juste une représentation. Donc ensuite, on est passé de la quasi-périodicité, c'est-à-dire somme de mouvements périodiques, à une périodicité, toujours avec des méthodes phénoménologiques, c'est-à-dire on essaye de voir, de décrire le mouvement apparent des planètes dans le ciel. Et ça, c'est Kepler avec le mouvement donc elliptique, hein, la planète. Alors ici, la planète, elle fait un tour sur l'ellipse, et ce qui est important, c'est qu'elle revient exactement au même endroit après. Donc le mouvement, il est périodique. Hein. Il est périodique, il a perdu en beauté parce qu'il n'est plus circulaire uniforme, mais il gagne en stabilité, puisque maintenant, il est périodique, donc il revient exactement au même endroit. Sur un temps infini, il fera toujours la même chose, pas de problème de stabilité, pas de physique non plus. C'est encore un modèle phénoménologique, modèle mathématique de description du mouvement. Et la physique va commencer avec Newton. Alors Newton va un peu casser un petit peu tout ce qu'on avait. Pourquoi ? Bon, bien sûr, on apprend à l'école que la loi de Newton permet de retrouver les lois de Kepler, et c'est vrai si on a une planète autour du Soleil, mais c'est vrai uniquement si elle est seule, parce que dès qu'on rajoute une deuxième planète, la loi de Newton, qui elle est une loi physique, cette loi d'attraction universelle, va dire que le modèle de Kepler est sûrement faux, puisqu'en fait ces deux planètes s'attirent entre elles. Donc si elles s'attirent entre elles, ça veut dire que l'ellipse de Kepler va être déformée, et donc se pose le problème de la stabilité du mouvement. Parce que est-ce que ces perturbations entre les planètes, entre Jupiter et Saturne, vont être suffisantes pour détériorer pour détruire la stabilité du mouvement du système solaire et permettre, par exemple, la collision de planètes. Alors, à l'époque de Newton, ce n'était pas du tout évident, et d'ailleurs, Newton pensait que ces perturbations étaient suffisantes pour détériorer la stabilité du système et qu'il fallait que, en gros, le créateur vienne de temps en temps remettre les planètes en place. Ça, c'était d'autant plus important que, en fait, les observations transmises depuis longtemps par les observations anciennes montraient qu'il y avait en fait des variations dans les mouvements de Jupiter et Saturne. C'est-à-dire qu'on pouvait. Alors, comment est-ce que les observations très anciennes permettaient de voir ça? Bien, en fait, ces observations, justement, étaient imprécises, hein, parce que c'était des observations faites à l'œil nu par les Chaldéens, mais des observations comme celle-ci. En fait, transmise par Ptolémée. Hein, la plus ancienne et la meilleure observation de Saturne que Ptolémée nous ait transmise a été faite par les Chaldéens. Le 1er mars de l'an 228 avant notre ère, à 83 minutes temps moyen de Paris, Saturne fut aperçu 2 doigts au-dessous de Gamma de la Vierge. Donc observation à l'œil nu imprécise, mais qui donne une position en longitude de la planète. Donc si on peut retrouver comme ça, avec d'autres observations, on va retrouver quelle était la période de la planète à l'époque. Et si on a la période, on en déduit le demi-grand axe, et on va voir que Jupiter se rapproche du Soleil et que Saturne s'en éloigne. Donc, indication d'une forte instabilité. Et en fait, ça a été le grand problème, un des grands problèmes de la science du XVIIIe siècle. Alors, ce grand problème, justement, il a été attaqué par beaucoup de grands mathématiciens, comme Euler, ici, recherche sur les irrégularités du mouvement de Jupiter et Saturne, 1752, donc c'était sur des questions proposées par l'Académie. Bon, gros mémoire d'Euler, mémoire où Euler, en fait, trouve que les deux planètes vont dans le même sens à cause de ces perturbations entre les planètes. Et en fait, résultat qui est faux. C'est-à-dire, on a... Ce mémoire est quand même important. Hein, pièce qui a remporté le prix proposé par l'Académie royale des sciences, ils n'ont pas dû trouver l'erreur. Mais ce mémoire est important parce que, bien que les résultats soient faux, parce qu'il manquait des dérivées partielles quelque part ou des choses comme ça, c'est un mémoire qui pose les principes des méthodes de perturbation. Autre grand mathématicien, Lagrange, un peu plus tard, 1760, refait les calculs et trouve, lui, que l'une des planètes accélère et l'autre ralentit. Donc on a bien une qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. C'est très bien, mais c'est encore faux. C'est encore faux, en fait, parce que c'est pareil, il a dû oublier des dérivées partielles quelque part. Et ce calcul va être repris un peu plus tard, ça va être un des premiers travaux de Laplace. Laplace, un peu, donc 1773, reprend les travaux de Lagrange, hein, et refait les calculs. J'ai lieu de croire cependant que la formule n'est pas encore exacte, celle à laquelle je parviens est fort différente. Alors, ce peu d'accord m'a fait soupçonner que je pouvais m'être trompé, mais ayant recommencé plusieurs fois mes calculs, je suis parvenu au même résultat. Donc, Laplace refait les calculs, ne trouve pas la même chose que Lagrange. Et qu'est-ce qu'il trouve, lui, en fait ? Il trouve qu'il n'y a pas de variation dans les demi-grands axes des planètes. Voilà. Je l'ai trouvé, la formule de l'équation séculaire, je l'ai trouvé absolument nulle, d'où je conclus que... Alors, qu'est-ce qu'il conclut ? Lui, il prend les équations Newton, il calcule par les méthodes de perturbation, donc commencées par être élaborées par Euler, puis par Lagrange, les variations des demi-grands axes, et il trouve que c'est nul. Alors, s'il trouve que c'est nul, il va en conclure qu'en fait, on ne peut pas douter des observations. Les observations montrent des décalages vraiment énormes dans les positions des planètes Jupiter et Saturne. Donc, ce qu'il va en déduire, c'est en fait que si par le calcul, en prenant les équations de Newton, on n'arrive pas à des variations, que ces observations sont observées, il va en conclure que ces variations viennent d'autre chose. Donc, l'altération du mouvement moyen de Jupiter, si elle existe, n'est point due à l'action de Saturne. Alors, il faut trouver autre chose. Donc, en fait, il va modifier le modèle physique. Comment trouver autre chose ? Alors, ça, ce qu'il y a de bien dans le système solaire, surtout à l'époque, c'est que, donc, il y avait le mouvement des planètes qui paraissait régulier, mais il y avait d'autres corps dans le système solaire. Et parmi ces autres corps, il y avait les comètes. Les comètes, on ne connaissait pas la masse des comètes. Donc, en fait, on voyait des corps qui, apparemment, étaient du même genre que les planètes. Il n'y avait aucune raison de supposer, on n'avait aucune idée de leur masse. Donc, l'intérêt de ces comètes, c'est qu'elles ont des trajectoires un petit peu dans tous les sens. Comme elles ont des trajectoires un petit peu dans tous les sens, il va se dire que, si on considère le grand nombre de comètes qui se meuvent autour du Soleil, on peut toujours penser que certaines ont eu des rencontres proches avec les planètes et ont donc altéré le mouvement de celles-ci. Alors ça, c'est important. Alors c'est, en plus, c'est des choses, bon, c'est toujours la même chose. Hein, même actuellement, quand on fait un calcul, on ne trouve pas quelque chose, ben, on ne trouve pas le résultat des observations, on va essayer de trouver une source autre, et une source ici qui est intéressante parce qu'elle est, un petit peu pas tellement durable, aléatoire, donc on peut obtenir tout ce qu'on veut finalement avec ces comètes. Et leur masse qu'on peut supposer grande. Alors ça va être important parce que du coup, il va se poser des questions sur la distribution des comètes. La distribution des comètes, c'est-à-dire que ça va, leur distribution va finalement compter. Est-ce que ces comètes, est-ce que l'effet moyen de ces comètes va pouvoir altérer suffisamment le mouvement de Jupiter et Saturne? Et ça va donner lieu à des mémoires comme celui-ci, donc mémoire de Laplace sur l'inclinaison moyenne des orbites de comètes. Hein. Il regarde la répartition des comètes. Est-ce que le mouvement des comètes est vraiment aléatoire ou pas? Et ça va avoir une autre incidence qui est très importante, c'est l'importance du calcul des probabilités chez Laplace et le développement des calculs de probabilité. Hein. Et voilà son grand traité de théorie analytique des probabilités, donc par M. le Marquis de Laplace. Et en fait, c'est, donc vous voyez, c'est développement des probabilités qui est en fait motivé au départ par un problème sur la stabilité du système solaire. Alors, bon, il faisait fausse route. Hein. Il faisait fausse route, ce qui n'a pas empêché donc ce volume sur la théorie des probabilités d'être important. Hein, ses calculs sur la théorie des probabilités sont corrects. Et il va revenir sur le problème plus tard. Il va revenir sur le problème une dizaine d'années plus tard avec sa théorie de Jupiter et de Saturne. Donc, nouveau travail. Et là, ça va être basé sur une observation. L'observation, c'est en fait celle-ci. Il se dit, après tout, si... Donc on regarde, on a des variations des demi-grands axes de Jupiter et de Saturne. Et il se dit, après tout, si ces variations viennent de la loi de Newton, elles doivent vérifier la conservation de l'énergie du système. La conservation de l'énergie, on écrit l'énergie pour l'une des orbites, c'est en gros la masse divisée par le demi-grand axe, l'énergie pour l'autre, la somme des deux doit être constante. En plus, on a la loi de Kepler qui relie les moyens mouvements aux demi-grands axes. Donc on va en déduire une relation qui doit se vérifier sur les variations des moyens mouvements. Et il trouve que cette conservation de l'énergie implique que la variation du moyen de mouvement de Saturne divisée par la variation des moyens mouvements de Jupiter doit être moins 2,32. Et si on prend la valeur observée, qui avait été observée par Allais, on trouve moins 2,42. Et c'est ça qui va lui donner la forte présomption qu'en fait, ces variations observées viennent bien des équations de Newton, des interactions gravitationnelles entre les planètes. Alors, je ne vous détaille pas le calcul qu'il va faire. Il va reprendre les calculs de perturbation. Il va se rendre compte qu'il y a, en fait, entre Jupiter et Saturne, une presque commensurabilité entre le moyen mouvement, la période de Jupiter et la période de Saturne, c'est-à-dire l'un fait... Quand Jupiter fait 5 tours, Saturne en fait 2. Et ça donne lieu à un terme qui n'est pas, disons, séculaire, qui n'est pas une tendance dans le mouvement, mais qui est juste une oscillation de grande amplitude et de période un millier d'années. Donc en fait, ce qu'il trouve, c'est que le mouvement, à long terme, il est constant. Donc c'est bien le calcul qu'il avait fait, il avait trouvé zéro hein, dans le calcul de ces variations à long terme, mais il y a une oscillation de forte amplitude d'une période de à peu près 1000 ans qui vient de cette interaction entre Jupiter et Saturne. Et en fait, les observations prises il y a 2000 ans et dans les périodes récentes donnaient l'illusion d'une tendance séculaire. Alors ça va être important, parce que il va ainsi calculer tous ces termes périodiques dans les mouvements des planètes et il va ensuite comparer ces nouvelles théories, donc qui inclut plein de ces termes, là j'en ai représenté un, mais plein de ces termes, de ces oscillations dans les éléments elliptiques des planètes et il va les comparer aux observations. Donc, il va les comparer aux observations de l'époque, aux observations récentes, comme celle-ci. Donc, observations autour de 1760. Alors, avant, on avait des écarts de plusieurs minutes, 20 minutes, ici. Alors, il faut savoir que une minute, c'est à peu près la meilleure précision d'observation à l'œil nu. Et après correction, en rajoutant ces termes périodiques, on passe de 20 minutes d'erreur à des erreurs de l'ordre d'une minute. Donc, vraiment l'impression d'avoir compris le mouvement des planètes. Et plus important encore, si on revient sur l'observation dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'observation de Ptolémée, il va calculer la position ancienne de Saturne à cause de ces variations calculées, et il va trouver un écart de à peu près une minute d'arc avec la position ancienne, alors qu'avant il y avait 6 degrés d'écart avec les anciens calculs. Alors ça c'est important parce que ça va être aussi à l'origine de ce qu'on peut appeler le déterminisme chez Laplace. Vous voyez bien que on avait un phénomène qui était un petit peu inexpliqué, donc on cherchait la solution dans les équations, mais on ne trouvait pas, on se disait peut-être le modèle physique n'est pas bon, peut-être il faut rajouter des éléments perturbateurs aléatoires pour retrouver ces observations anciennes. Et là, en fait, il va montrer que uniquement à partir de la loi de Newton, il a pu retrouver toute l'histoire du problème à partir de la donnée des observations récentes. Disons que les observations récentes servent à ajuster les conditions initiales et après, il retrouve tout le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est en particulier cité. Donc, je vous ai cité tout à l'heure le volume sur la théorie des probabilités de Laplace. Je ne sais plus où il est. Mais dans l'introduction de ce même volume, il y a cette phrase célèbre sur le déterminisme qui vient justement de ce problème. C'est que maintenant, donc, nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Et une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Ça veut dire que la seule connaissance, si on arrivait en gros à faire une théorie de l'univers tout entier, c'est-à-dire mettre toutes les particules dans les équations de gravitation, la simple condition initiale du présent permettrait en gros de suivre tout le futur et de connaître tout le passé. Et ça, on comprend bien pourquoi Laplace écrit ça. Laplace écrit ça parce que c'est exactement ce qu'il vient de faire. L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en mécanique et en géométrie, jointes à celles de la pesanteur universelle, l'ont mis à la portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques les états passés et futurs du système du monde. Alors, ça c'est donc un premier grand résultat, mais en fait il y avait une autre question qui était importante. Donc les demi-grands axes des planètes, à long terme, ne changent pas. C'est-à-dire que les orbites des planètes ne vont pas, en moyenne, s'agrandir ou se rétrécir. Mais alors ça, ce n'est pas suffisant pour assurer la stabilité du système solaire. Si je prends la Terre et Mars sur des orbites à une unité astronomique, 1,5 unité astronomique, si je les prends circulaires, elles sont comme ceci. Mais si je change l'excentricité de la Terre à 0,1 et celle de Mars à 0,3, je peux avoir des collisions entre les deux planètes. Donc, là, je n'ai pas changé les demi-grands axes. Les demi-grands axes sont les mêmes. Donc, pour arriver à assurer la stabilité du système solaire, il faut aussi arriver à borner les variations des excentricités des planètes. Et ça, ça va être un deuxième travail qui est dû en fait à Lagrange et à Laplace, hein, en utilisant les mêmes méthodes. Ils vont calculer les variations à très long terme des excentricités, des inclinaisons des planètes. Et pour ceci, donc voilà un petit peu la manière de s'y prendre, c'est-à-dire qu'on a une ellipse, et en fait, on va regarder la position du deuxième foyer de l'ellipse. Le premier foyer est au Soleil, le deuxième foyer, la position dans le plan du deuxième foyer de l'ellipse. Alors on peut considérer en gros que c'est le plan complexe, on peut ramener les équations de perturbation entre les planètes à un système d'équations différentielles à coefficients constants, et la solution de ce système donne en fait une forme pour le mouvement du deuxième foyer qui est une somme de mouvements circulaires uniformes. Vous voyez ici pour Jupiter, ça peut se résumer à deux. Un qui est, on bouge comme ça, et puis un deuxième, eh bien on bouge autour comme ça. En fait, c'est un peu comme les systèmes des épicycles de Ptolémée, mais là appliqué non pas au mouvement de la planète, mais au mouvement de son deuxième foyer. Alors, ça a beaucoup d'importance, parce que ça vient dire que les ellipses de Kepler ne sont pas fixes. Donc leurs demi-grands axes oscillent un petit peu, ça c'est pas bien méchant, mais surtout, ces ellipses vont bouger. Elles vont bouger, hein, vous voyez bien, l'orientation de l'ellipse va bouger dans le plan, on aurait la même chose pour l'inclinaison, hein, le plan de l'ellipse va bouger dans l'espace, et suivant que le deuxième foyer se trouve proche du Soleil ou loin du Soleil, l'ellipse va aussi soit devenir plus circulaire, soit devenir plus allongée. De même, l'inclinaison va changer, l'inclinaison de l'orbite va osciller, va devenir tantôt plus allongée, tantôt plus circulaire. Alors ça, c'est pour Jupiter. Pour la Terre, c'est un tout petit peu plus compliqué, il y a plus de modes. Mais en fait, donc ça va donner des variations de l'excentricité de la Terre. Alors, vous les avez ici reproduites, ici, pour 6 millions d'années, hein, 3 millions d'années en arrière, 3 millions d'années en avant. Et vous avez ces oscillations. Alors, ces variations sont dues aux variations de cette distance-là, hein, de cette distance ici. Et dans le cas de la Terre, on a une excentricité qui arrive jusqu'à zéro, donc l'orbite peut être parfaitement circulaire, ou bien monter jusque vers 6-7%, enfin 6% ici, alors que la valeur actuelle, c'est 1,7%. Et les périodes de ces mouvements, ce sont des longues périodes. Hein, comme en fait c'est dû à l'attraction des planètes entre elles, que les planètes sont un millier de fois plus petites que la masse du Soleil, ces périodes vont être en gros un millier de fois plus grandes que les périodes planétaires. C'est des périodes qui vont aller de 20 000 ans à quelques millions d'années. Alors on peut regarder quelle est ici la valeur maximale de la variation de l'excentricité de la Terre. On arrive à 0,06 et pour Mars ici, on arrive à 0,14. Donc, deuxième résultat de Laplace, hein, c'est qu'on n'atteint pas cette configuration. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. La Terre et Mars ne peuvent pas se cogner. Alors, ces variations vont être calculées donc, par Laplace, surtout pour Jupiter et Saturne, et ensuite vont être calculées par Le Verrier, le même qui a découvert Neptune, donc en 1856, il va calculer les variations des éléments des orbites, comme ça, pour toutes les planètes du système solaire. Et alors ça va avoir une implication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que l'orbite de la Terre bouge, eh bien, si l'orbite de la Terre bouge, on va tout de suite se dire « Ah, mais ça a peut-être des conséquences sur le climat à la surface de la Terre. Hein, » Le climat à la surface de la Terre dépend de l'insolation à la surface de la Terre et de l'ensoleillement. Hein, et cet ensoleillement, bon, ben, c'est déjà responsable des saisons. Hein, ça, c'est déjà la première, déjà sur une seule ellipse. Hein, on a une différence. En fait, le périhélie, cette année, c'était le 2 janvier, je crois. Mais, donc, les saisons, hein, ça, on le sait, hein, depuis longtemps, les saisons sont dues non pas à l'excentricité de l'orbite, mais à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à la normale à son orbite, hein, de 23 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obliquité. Vous avez la Terre, vous avez là, ici l'obliquité, 23 degrés, et puis quelques minutes, je ne sais jamais, 21 minutes. Mais l'excentricité compte aussi, parce que l'excentricité change un peu la distance quand on est au périhélie. Alors actuellement, on est au périhélie en hiver, ce qui va venir dire que dans l'hémisphère nord, c'est ce qui va venir réduire un peu le contraste des saisons. Alors qu'on est en été quand on est le plus loin de la Terre. Si c'était le contraire, on aurait un contraste de saison un peu augmenté dans l'hémisphère nord. Bon, alors ça va être assez vite après la publication, disons, de ces... Vous pouvez considérer que ces courbes ont été pratiquement, pas les courbes, mais des choses équivalentes faites par Le Verrier. En fait, il va y avoir les premières idées de variations climatiques dues aux planètes et dues à Kroll. Alors, Kroll était un personnage intéressant parce qu'en fait, ce n'était pas du tout un astronome au départ, ni un géophysicien, mais il a fait ça comme un hobby au départ. Donc, il regardait en fait les changements du climat de la Terre. Et le grand principe, la grande idée, c'était d'essayer d'expliquer les périodes glaciaires. Les périodes glaciaires avaient été découvertes un peu avant par Agassiz. Donc, on avait d'un côté les évidences de ces grandes variations climatiques, de l'autre côté, ces grandes variations de l'orbite de la Terre. Donc, l'idée que c'était peut-être l'excentricité, ces variations d'excentricité ici, qui étaient à l'origine de ces grandes variations climatiques à la surface de la Terre. On a des périodes ici qui sont de l'ordre de 100 000 ans à peu près. Et alors, Kroll va le premier tracer un peu les courbes originales de Kroll, hein, qui trace à partir de zéro. Alors, c'est marrant, il met 1800, hein, il met le zéro en 1800, il aurait pu mettre en zéro, mais là, il regarde sur plusieurs millions d'années ici, il fait le calcul à partir des formules de Le Verrier, des variations d'excentricité. Si vous voulez, cette courbe, c'est la même que celle-là, à peu près. Alors, ça ne va pas être suffisant, parce qu'en fait, l'excentricité, ça ne change pas énormément de choses dans le bilan thermique de la Terre. Et en fait, les variations importantes, finalement, sont plus dues aux variations de l'obliquité, de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Et ça va être mieux compris un peu plus tard par Pilgrim et surtout bien connu par Milankovitch. Et là, voilà par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'axe de la Terre, l'axe de la Terre va bouger, l'axe de la Terre n'est pas fixe. À cause, la Terre est aplatie à cause de sa rotation. On va être plus aplati à l'équateur. Et du coup, il y a un couple qui va s'exercer sur ce bourrelet équatorial, un couple exercé par la Lune et le Soleil. Et ce couple va faire précesser l'axe de la Terre. Donc, si on avait juste la Terre seule avec la Lune et le Soleil, on aurait une précession lente de l'axe de la Terre en 26 000 ans, mais à obliquité constante. L'obliquité ne bougerait pas. En plus de ce mouvement, on a les perturbations de toutes les planètes. Les planètes, comme pour les excentricités ici, comme pour les excentricités, les planètes vont faire bouger le plan de l'orbite de la Terre. Et en faisant bouger le plan de l'orbite de la Terre, ça rajoute un terme d'entraînement dans ce mouvement, ce qui va induire une oscillation ici de l'obliquité, donc une oscillation de l'axe de la Terre. Cette oscillation, elle est faible, elle fait 1,5 degré autour de la valeur moyenne, hein, qui est de 23 degrés, mais elle est suffisante pour induire des grandes variations d'insolation, ici 20%, aux hautes latitudes. Vous comprenez, si vous êtes dans les hautes latitudes, vous bougez un petit peu, et aux hautes latitudes en été. Alors, pourquoi les hautes latitudes en été sont importantes? Ça va être la limite des calottes polaires. Et s'il ne fait pas assez chaud pendant l'été, la neige accumulée pendant l'hiver ne va pas fondre. Et donc, elle va s'accumuler d'une année à l'autre. C'est blanc, ça réfléchit plus le soleil. Et du coup, on va avoir un climat de plus en plus froid et on va aller vers une période glaciaire. C'est schématiquement un petit peu le mécanisme proposé par Milankovitch. Alors, on a donc l'idée, c'est que ce sont les variations de l'orbite de la Terre dues aux perturbations planétaires qui induisent ces variations d'insolation et qui donc sont à l'origine des périodes glaciaires. Alors là, il a fallu attendre un certain nombre d'années avant que cette théorie, donc développée dans les années 20 à 40, 1920-1940, prenne vraiment corps. Et c'est depuis surtout les années 70 où on a eu des mesures précises. En fait, il fallait trouver des mesures précises des climats du passé, c'est ça le problème. Il fallait retrouver, est-ce que ces variations d'insolation sont corrélées aux variations climatiques du passé dans les derniers millions d'années ? Alors, comme il n'y avait pas des relevés météorologiques, il a fallu en trouver, il a fallu trouver des traces du climat du passé dans les enregistrements géologiques. Et une manière, ça a été de mesurer des rapports isotopiques, et en particulier le rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16. Disons que dans l'eau, on va avoir de l'oxygène 18, de l'oxygène 16, dans l'eau des océans. Quand cette eau s'évapore, c'est le plus léger qui s'évapore, c'est l'oxygène 16 surtout. Ensuite, il est transporté par les nuages et il va se condenser en glace. Et donc, quand on va arriver ici, on va avoir des calottes de glace qui ont moins d'oxygène 18 que l'eau de l'océan. Donc on a pompé de l'oxygène 16 ici dans les océans, on a donc augmenté la concentration en oxygène. Donc on a un océan qui a une concentration en oxygène 18 qui a augmenté et une calotte de glace avec une concentration en oxygène 18 qui a diminué. Donc un moyen de faire des relevés finalement de température dans le passé, c'est de faire par exemple des carottes de glace. Si on fait des carottes de glace, on va trouver de la glace. Bon, ça permet de retrouver à peu près sur 300 000 ans. On va mesurer ce rapport isotopique et on va en déduire quelle était l'épaisseur de la glace à l'époque où la précipitation a eu lieu. Une autre méthode, ça permet, mais sur des durées assez courtes, de faire ces relevés. Une autre méthode, c'est dans les océans, il y a des petites bêtes qui font, il y a les foraminifères. Ces foraminifères font des coquillages et ces coquillages sont faits avec des carbonates, c'est constitué de carbonates. Ces carbonates sont faits avec l'oxygène de l'océan. Donc finalement, ces carbonates contiennent cette coquille contient une trace du rapport isotopique de l'océan à l'époque où vit la petite bête. Une fois que la bête meurt, sa coquille se dépose au fond de l'océan et s'accumule comme ça en sédiments, donc en couches chronologiques. Donc il suffit ensuite de faire un forage marin dans ces couches de sédiments et on va comme ça retrouver quelle était l'épaisseur de la calotte polaire à l'époque où la bête vivait. Alors, ça paraît simple d'écrit comme ça, bon, ça demande pas mal de travail. Voilà un peu, parce qu'en fait, ces carottes de sédiments, c'est des carottes de boue qui ressemblent à peu près à ça. Ça fait à peu près 10 cm de large. C'est pris sur plusieurs kilomètres de long, hein, parfois. Et en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils extraient un peu de cette boue. Ils regardent, parce qu'il faut en plus identifier la petite bête. Ça, c'est pas facile. C'est des bêtes qui sont gros, c'est comme une pointe d'aiguille, hein, pas une tête d'épingle, mais plutôt une... Et puis, donc, il faut identifier l'espèce parce que la manière dont elle accumule l'oxygène ne doit pas être la même. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais à partir de tout ça, depuis les années 70, on a eu des courbes qui ont montré une très bonne corrélation entre ces variations d'insolation et puis ces changements d'obliquité de la Terre. Donc ça, c'en est un, par exemple. Bon, c'est parmi d'autres où vous avez ici les variations d'obliquité et puis ces variations d'oxygène 18... dans des sédiments du même ordre que ceux dont je vous parle. Et là, on peut aussi regarder les petites bêtes qui aiment l'eau chaude, les petites bêtes qui aiment l'eau froide, qui donnent aussi une indication de la température à l'époque. Et on retrouve une bonne corrélation, disons, avec cet enregistrement du passé. Il y a un très bel exemple, c'est celui-là. Ou alors là, ça fait... Parce que des fois, c'est pas toujours évident de voir cette corrélation, mais si vous regardez ces deux courbes-là, par exemple... Vous voyez bien, ça, c'est l'insolation à 65 degrés de latitude nord. Et ça, c'est un indicateur, bon, qui est un autre indicateur dans un enregistrement ici qui date de 2,4 millions à 2,9 millions années. Et vous voyez une très bonne corrélation entre cette courbe et celle-là. Alors ça, ça a été... Donc ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire, d'ailleurs, c'est les premiers papiers, un des papiers fondateurs de cette théorie s'appelait... quel était le nom? Ah, je ne me rappelle plus, en fait. C'était disons que les orbites planétaires qui étaient le pacemaker du climat. Hein. C'est-à-dire que c'est... Finalement, on a une périodicité dans ces variations des orbites. Cette périodicité, on va la retrouver dans les variations climatiques. Et en fait, donc, on va retrouver ici un moyen d'établir une échelle géologique absolue, hein, à partir de ces variations astronomiques des orbites. Donc voilà, vous voyez, on est encore plus loin. On a les planètes qui se perturbent entre elles. Ça induit des variations de l'axe de la Terre, qui induit des variations de l'insolation à 65 degrés de latitude nord, qui fait que les petites bêtes n'ont pas les mêmes compositions isotopiques dans leurs coquilles. Et après, quand on les retrouve, eh ben, on retrouve le climat. Donc ça, l'idée, c'est on va pouvoir faire des échelles géologiques absolues, puisque les astronomes vont nous donner... Alors, les géologues, eux, creusent de plus en plus profond. Hein, plus ça va, et plus ils vont aller faire des trous profonds, comme les astronomes voient de plus en plus loin. Les géologues creusent de plus en plus profond. Là, on n'y peut rien, c'est le progrès. Et d'où l'idée, ben, donnez-nous une solution la plus précise possible pour aller faire de la datation absolue des couches géologiques anciennes, parce que toutes les autres méthodes sont assez relatives. Et alors là, problème parce que si on... Tout ce que j'ai décrit, là, c'était un petit peu, sur les orbites planétaires, c'était la description, disons, d'une approximation de ce mouvement. Une approximation, je dirais, linéaire dans un certain formalisme. Mais, et ça... Alors les gens se disaient au début, bon, ben, on va aller un peu plus loin, on va prendre des approximations d'ordre un peu plus élevé, on va... en gros, développer en série toutes ces expressions de la mécanique céleste, et puis plus on prendra terme, plus ça permettra d'obtenir une solution précise. Et en fait, à la fin du 19e, Poincaré a montré que ça, c'était illusoire, parce que toutes ces séries étaient divergentes, et en gros, qu'il n'était pas du tout sûr de pouvoir, et même c'était à peu près certain, que ces trajectoires, finalement, n'étaient pas quasi-périodiques. Mais disons que ce n'était pas évident... Ce qu'on pensait quand même, c'était que, d'accord, on avait des résultats qui montraient l'existence de solutions très compliquées, hein, mais pour le système solaire, on pensait que les masses des planètes étaient suffisamment petites, les excentricités suffisamment petites, pour que, en gros, tout se passe comme si le mouvement était régulier, et qu'on pouvait continuer, disons, de travailler comme si, en gros, Poincaré n'avait pas... Les résultats de Poincaré ne s'appliquaient pas vraiment à des situations physiques réelles. Et en fait, quand on a pu faire les calculs, disons que ça, c'est juste récemment, disons, dans les 10 dernières années, un petit peu plus maintenant, mais enfin à peine, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le cas, et que le mouvement des planètes n'était pas régulier, mais était chaotique. Alors, chaotique, il faut que je vous explique ce que ça veut dire. Et... Un bon exemple pour le comprendre, c'est le mouvement du pendule. Alors, le mouvement du pendule, celui-là est un peu long, mais ce n'est pas grave. Donc, si on a un mouvement de pendule, en fait, on a, disons que si je prends un pendule avec une tige rigide, hein, on a les oscillations du pendule là, qui sont bien régulières, puisqu'on s'en sert même pour faire des montres, hein, donc il vaut mieux qu'elles soient régulières. Et puis, on peut aussi avoir des mouvements très réguliers qui sont les mouvements de, si on lance le pendule et qu'on le fait tourner comme ça, ça va être bien régulier. Mais entre les deux, eh bien, on a des mouvements qui vont être des mouvements où le pendule arrive jusqu'ici et puis revient en arrière, revient jusqu'ici et revient en arrière comme ça. Et alors là, on voit bien qu'il faut presque rien comme perturbation extérieure pour qu'on passe de cette trajectoire-là à une trajectoire où le pendule reviendrait de l'autre côté. Et ça, c'est parce qu'on a ici un point d'équilibre, mais un point d'équilibre instable. Si je mets le pendule à l'envers, il est en équilibre. C'est comme si je mets ce bâton-là, il est en équilibre, mais c'est un équilibre instable. Il ne faut presque rien pour le faire tomber. Eh bien, en fait, finalement, les mouvements chaotiques, c'est des mouvements comme ce qui se passe au voisinage de cette position d'équilibre. C'est là qu'on a une... Il faut très peu de choses pour faire diverger complètement deux orbites, une qui reviendra en arrière et l'autre qui passera de l'autre côté. Et la conséquence, c'est que si on a quelque part, disons, dans la complexité des équations, quand on met plein de planètes, c'est assez compliqué, si on a quelque part des situations de ce genre-là, et non pas des situations où, en gros, les pendules font soit des oscillations en bas ou bien soit des bonnes révolutions bien, bien gentilles, eh bien, on aura des mouvements chaotiques qui se traduiront au début, surtout, par le fait le plus évident, c'est que si on démarre avec deux trajectoires qui sont voisines, eh bien, bon, bien sûr, au début, les trajectoires vont être à peu près les mêmes, comme si je lance mes pendules ici, mais on va avoir une divergence exponentielle des trajectoires, c'est-à-dire que la distance, et ça c'est le cas ici pour la Terre, la distance entre deux orbites va varier comme 10 puissance t sur 10, où t est en millions d'années. Ça veut dire que si vous partez de 15 avec 15 mètres d'erreur initiale ou d'imprécision initiale, au bout de 10 millions d'années, vous avez 150 mètres d'erreur, mais au bout de 100 millions d'années, ben vous avez multiplié par 10, vous avez 150 millions de kilomètres d'erreur. Chaque 10 millions d'années, vous multipliez l'erreur par 10. Donc 150 millions de kilomètres d'erreur, ça veut dire que vous ne savez plus où est la planète. Et si on ne sait plus où est la planète, alors ça veut dire surtout que finalement, ce qu'on va perdre un peu, c'est on va plus savoir, c'est surtout l'orientation de la planète qu'on ne va pas trouver. Mais comme on ne saura plus dans quel sens elle est orientée, ça ne veut pas forcément dire que la planète est venue cogner le Soleil. Et alors, donc ça vient dire en particulier que ce n'est pas possible. C'est possible d'utiliser ça pour avoir une échelle géologique propre jusque par ici, mais ce n'est pas possible de le faire sur 100 millions d'années. Sur 100 millions d'années, on n'aura pas ce genre de... On n'aura jamais une solution précise, infiniment précise. Alors, on peut regarder un petit peu à quoi ressemblent ces orbites planétaires. Donc, vous voyez, par exemple... Vous parlez du pendule, mais voilà par exemple le genre de choses qui arrivent dans certaines coordonnées, disons dans le système solaire. Hein, vous avez, alors je pourrais le mettre comme ça. Hein, imaginez que ça, c'est le bas du pendule, hein, donc vous faites bien des oscillations au début, pendant 10 millions d'années, et puis hop, après vous faites un tour. Donc alors qu'un mouvement régulier serait resté juste ici. Et alors, est-ce que ça a les trajectoires des planètes ne sont pas toutes aussi régulières les unes que les autres. Il y a des trajectoires qui sont assez régulières, comme celle de Jupiter. Vous avez des bonnes oscillations ici, bien gentilles. Hein, vous voyez un petit peu, c'est des oscillations. Ici, c'est 200 millions d'années en arrière, 200 millions d'années en avant. Mais les trajectoires comme celle de la Terre et encore plus celle de Mercure sont beaucoup plus irrégulières. Alors là, on peut peut-être allumer, Là, je vous les montre, en fait, mais on ne les voit pas très bien. Alors, on va les écouter, on va voir si c'est un petit peu plus facile à entendre qu'à voir. Je vous préviens, ça a été fait un peu au dernier moment. Je vais vous faire écouter, finalement, la musique des sphères. Hein, Kepler avait fait ça avant moi. Hein. Donc, ça, finalement, alors ça, c'est les variations. Bon, c'est l'excentricité de Jupiter. Et on va donc écouter ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il est malin. Faut que je le relance, alors. Bon. Faut que je quoi? Ouais. Quoi? Ah là 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 là. Ah non, mais je vais le relancer, voilà. Ah ouais, c'est malin, ça. Voilà, c'est les intérêts du direct. Ah oui, mince. Hop. Bon, alors. Donc ça, c'est Jupiter. Alors là, vous entendez, hein, c'est pratiquement une oscillation pure, hein, avec peu d'harmoniques, et puis c'est constant. C'est vraiment... on a un mouvement qui oscille, mais qui oscille quasi périodiquement, qui est très stable finalement. Voilà. On va regarder la Terre. Alors là, il faudra être attentif parce qu'en fait, il y a des variations, mais ces variations, elles ne sont pas énormes. Hein. Ce n'est pas des variations énormes parce que c'est quand même dominé par un couplage linéaire. Finalement, ce qu'avait fait Laplace, ce n'était pas faux. C'était la partie linéaire. Et vous allez entendre quand même des petites variations dans la régularité du mouvement. Alors là, je ferai... Petite variation, hein, faut être un peu attentif pour les entendre sous la composante, quasi périodique. Et là, Mercure. Alors Mercure, c'est la plus irrégulière. Alors là, vous avez vu, ça a changé complètement le mode. Hein, on entendait tudut, tudut. Et voilà, et là ça reprend autre chose. Donc on est passé dans un mode, on repasse dans l'autre. En fait, on n'a pas du tout le. Voilà, on revient dans d'autres modes. Donc là, on a vraiment. Hein, c'est ça en fait l'effet du chaos. Ça vous... Alors, on va. Vous en voulez écouter une autre ? Vous voulez écouter ? Quelle planète vous voulez écouter ? Pardon ? Saturne. Alors Saturne, eh bien Saturne, voilà, Saturne c'est comme, ah oui, alors c'était fait pour que ça aille vite, parce que Saturne c'est comme Jupiter. Un peu plus aigu, hein, ça tourne plus vite, finalement ça c'est le mouvement de la précession de l'orbite de la planète. Mais c'est pareil, c'est parfaitement régulier. Saturne à la fin. Hein. Vénus, c'est comme la Terre. Vénus, c'est comme la Terre. Quoi ? Ah, Uranus, ça change un peu. C'est Uranus, donc ça va être régulier aussi, vous allez voir. C'est plus grave, Uranus. C'est plus lent, ça tourne plus lentement. Voilà. Bon. Donc en fait, ça vient nous dire que finalement, ce programme des géologues n'est pas possible. Ce programme des géologues n'est pas possible, disons que n'est pas possible immédiatement sur des durées de l'ordre de 100 millions d'années. Ça vient pas nous dire si deux planètes peuvent se cogner. Hein, au contraire, ça vient nous dire qu'on ne pourra pas voir directement par le calcul, comme ça on ne pourra pas retracer de manière exacte le mouvement du système solaire sur 5 milliards d'années, puisque déjà à 100 millions d'années, on a 100% d'erreur en gros dans les positions. Alors on peut quand même regarder ce qui se passe sur des durées de l'ordre de 100 millions d'années, même plus, et voilà l'évolution du mouvement du système solaire ici sur 25 milliards d'années, hein, 10 milliards d'années en arrière, 10 milliards d'années en avant. Alors, ce qui est tracé ici, ce n'est pas l'excentricité. Hein. L'excentricité, ça bougerait beaucoup. Vous voyez, ici, c'est sur... Là, ce que je vous montre ici, c'est sur 500 millions d'années. Donc, ça bougerait beaucoup trop, vous ne le verriez pas. Ce qui est tracé, c'est le maximum de l'excentricité. Vous avez ici, pour Jupiter, donc le maximum de l'excentricité qui est ici. Vous voyez, si je prends ce maximum, c'est une droite. Et pour tous les mouvements réguliers, ce sera des droites comme ça. Donc quand ça bouge, c'est uniquement dû au chaos. C'est uniquement dû à la diffusion chaotique des planètes, dû à leur interaction. Hein, tout ce qui est régulier, donc dans les solutions de Laplace, tout ça, ce serait pareil, des droites. Donc vous voyez, toutes les grosses planètes ont des mouvements très réguliers. Et les planètes internes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ont des mouvements chaotiques, donc faiblement chaotiques pour Vénus et la Terre, et fortement chaotiques pour Mercure et Mars. Alors, ça c'est... Disons que ça c'est une chose, mais je vous ai dit que au bout de 100 millions d'années, en fait, la trajectoire, ce n'est pas la bonne trajectoire, hein, c'est puisque une toute petite erreur au début entraînerait des différences après 100 millions d'années. Donc en fait, ce qui est tracé ici quand même, c'est plutôt une possibilité. Regardez qu'est-ce qui est possible avec une condition initiale. Si je bouge un petit peu, je vais avoir la même chose au début, et ensuite, je vais avoir des trajectoires qui vont différer. Donc pour savoir tout ce qui est possible, il faudrait que j'explore énormément de conditions initiales parmi toutes celles qui sont compatibles avec la précision des observations actuelles. Et même, il suffit que je change de très très peu de choses, en fait. Par exemple, je change de très peu de choses. Si je change un peu, je vais avoir l'excentricité de Mars qui va augmenter un peu, mais disons qu'il ne va jamais arriver jusqu'à 0,3, qu'il va arriver à 0,25 et qu'il ne va pas pouvoir cogner la Terre. Par contre, si je change d'une autre manière, je change un peu, pareil, la condition initiale, et là, j'ai une orbite de Mercure qui augmente, dont l'excentricité augmente énormément, jusqu'à pouvoir entrer en collision avec Vénus. Donc, conclusion, là, on a toujours... Mais ça prend du temps, ça prend 3 milliards et demi d'années. Hein, donc ça vient dire, en gros, que les collisions entre les planètes sont possibles. Hein, Mercure peut venir cogner Vénus, mais disons que c'est une probabilité qui n'est pas très grande. Hein, on a un peu de temps devant soi. D'abord, ça prendra longtemps, parce que c'est des petites interactions. Et puis... il n'y a pas beaucoup de trajectoires qui vont amener à cette collision. Par contre, Mars, Mars, on n'arrive pas à la faire cogner avec la Terre. Ça, c'est bien ennuyeux, mais c'est pas... Alors, il y a un autre type de corps dans le système solaire. Alors, parce que là, si vous voyez, finalement, le corps le plus instable, c'est Mercure. Et en fait, une des raisons, c'est en grande partie parce que c'est le corps de plus petite masse. C'est lui qui va bouger le plus parce qu'il est moins contraint, en fait, à cause de sa masse. Et finalement, je vais revenir à ces comètes dont Laplace parlait. Il parlait de ces mouvements, finalement, aléatoires des comètes. Et en particulier, voilà des calculs qui ont été faits au moment du retour de la comète de Halley. Alors, les gens se sont dit, on va regarder en arrière les prédictions de la comète de Halley. Et puis, plusieurs personnes faisaient des calculs. Et en fait, ils trouvaient tous des résultats qui marchaient bien au début, et après qui différait complètement. Et la raison, c'est en fait que, tout simplement parce que le mouvement de cette comète est chaotique. En fait, là, c'est un chaos beaucoup plus fort qui vient de rencontres proches avec les planètes. Et ces mouvements des comètes, on s'est dit, peut-être qu'on a des comètes comme ça qui vont avoir des mouvements chaotiques et qui vont pouvoir venir d'assez loin et arriver dans le système solaire interne. Et là, on va voir des travaux qui sont très proches de ce qu'avait fait Laplace. Des gens récemment, donc des chercheurs, se sont intéressés à la distribution des comètes. Pourquoi s'intéresser à la distribution des comètes? Distribution des comètes à courte période, c'est se dire que si elles viennent un peu de n'importe où, du nuage d'aurore, on va avoir une distribution régulière de ces comètes, distribution aléatoire, puisqu'elles viennent de quelque chose qui est sphérique autour du système solaire. Hein? Ça, c'est un diagramme de tout le système solaire, de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc ici, on a le demi-grand axe, c'est-à-dire la distance au Soleil, en unité astronomique. Et puis, verticalement, c'est l'excentricité. Alors, si on prend donc la Terre ici, si on prend une orbite n'importe où, si on augmente les Mars, par exemple, si j'augmente l'excentricité jusqu'à cette valeur-là, vous voyez, il y a une ligne, on ne la voit pas très bien, mais il y a une ligne ici, Mars peut venir cogner la Terre. Mais en fait, il se passe des choses bien avant. Chaque point ici, est une trajectoire d'une particule, donc d'une comète, d'un astéroïde, d'une particule de ce genre-là. Cette trajectoire a été intégrée et en fait la couleur représente la stabilité de cette particule. Quand c'est bleu, c'est très stable et quand c'est rouge, c'est très chaotique. Et quand c'est blanc, c'est que c'est parti. Alors vous pouvez vous dire que les particules rouges, par exemple si je démarre ici, j'augmente l'excentricité, j'arrive dans la zone rouge ici, à ce moment-là, je peux balayer toute la zone rouge. C'est-à-dire que je peux venir près de Neptune, je peux venir près d'Uranus, je peux revenir entre Jupiter et Saturne, je peux venir au-delà de Mars et je peux venir cogner la Terre. Hein, ou au voisinage de la Terre. Donc en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que des particules comme ça, en gros, les zones stables qui restent, hein, finalement, il y a plein d'endroits chaotiques qui sont dus à la présence des planètes. Et puis, on a plus que quelques zones stables, les zones bleues, donc entre Mars et Jupiter, ça c'est la ceinture des astéroïdes, et puis au-delà de Neptune, eh bien, c'est ce qu'on appelle maintenant ici, là on a trouvé des objets qu'on appelle donc des objets de Kuiper, et donc ce sont les objets échappés de cette ceinture qui sont venus donc près de dans la zone plus proche ici, qui constituent ces comètes à courte période. Donc là, vous voyez, la zone finalement des comètes, c'est cette zone rouge. Toutes les comètes de grande excentricité sont dans cette zone rouge, donc ont des mouvements complètement chaotiques et peuvent se balader un petit peu n'importe où dans le système solaire. Alors, je vais revenir. En fait, donc on a des mouvements ici qui deviennent pratiquement aléatoires pour le mouvement des comètes. Et des mouvements, disons, pour les planètes qui sont chaotiques, imprédictibles au bout de 100 millions d'années. Mais en fait, il y a une différence entre un mouvement aléatoire et puis un mouvement chaotique. Si je regarde... Si je regarde un mouvement, je vous ai dit un mouvement chaotique, en fait, il est quand même donné... pour le mouvement des planètes, il est régi par une équation différentielle, il est régi par la loi de Newton. Et cette loi de Newton, elle vous dit toujours ce que Laplace disait au tout début, c'est-à-dire si je connais exactement ma condition initiale, je vais pouvoir prédire tout le futur et retrouver tout le passé. C'est vrai, ça reste vrai. Le problème qui se passe dans un mouvement chaotique, c'est que dans le voisinage, il suffit d'être très proche ici pour avoir une trajectoire qui va diverger au bout d'un certain temps. Par exemple, l'exemple que je montrais tout à l'heure ici, comment est-ce que j'arrive à faire cogner Mercure avec Vénus ? Eh bien, il suffit que je change au départ la position de la Terre de 10 puissance moins 50 mètres. Ça suffit ici pour que là, j'ai une trajectoire, la trajectoire normale qui reste bien gentille, et la deuxième où Mercure vient cogner Vénus. Alors, du coup, on se dit que ce n'est pas possible de prédire ce qui va se passer. Mais la différence, c'est que par rapport à un mouvement, disons, régulier, c'est que dans le passé, c'est pareil. Hein ? C'est-à-dire que là, j'ai pareil la divergence exponentielle, là. Et mettons une trajectoire un petit peu au-dessus, elle va partir comme ça, mais elle venait ici de quelque chose beaucoup plus loin, là. Alors finalement, on peut se dire, il y a peut-être quelque chose qui est possible de faire. Alors là, je vous raconte un peu presque de la science-fiction. C'est, finalement, si je connais ici, si j'ai ici une observation très imprécise de la position ici des planètes qui date de 100 millions d'années ou 200 millions d'années, si j'ai une, j'obtiendrai ici une contrainte sur mon système qui va être en 10 puissance moins 20. Si j'ai une erreur de 10 puissance moins 20, j'arrive ici avec au bout de 200 millions d'années, j'ai perdu toute l'information. Mais à l'inverse, si j'ai de l'information ici, il y a 200 millions d'années, j'obtiens une contrainte sur le système gravitationnel, sur les équations de la dynamique, sur toutes les constantes du système solaire, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 20. D'où un peu la question, est-ce que ce ne serait pas possible de retrouver dans ces enregistrements géologiques des données qui permettraient d'obtenir une information même très imprécise il y a 200 millions d'années, ou il y a 100 millions d'années, ce serait déjà pas mal, ça donnerait, il y a 100 millions d'années, ça donnerait 10 moins 10. Alors déjà, alors pour ça, en fait, on peut regarder le signal, on peut regarder un petit peu les différentes composantes qui interviennent dans l'insolation, hein, celles qu'on est susceptible de retrouver dans les signaux géologiques de ce type-là. Alors il y a une partie de l'insolation, ça dépend un peu des latitudes, ça dépend des mécanismes, mais qui est donnée par l'obliquité, et puis une autre qui est donnée par la précession des orbites de la Terre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je parlais des mouvements chaotiques des planètes, et je vous disais que voilà à quoi ressemblent un petit peu ces transitions chaotiques. Vous avez un mouvement ici d'oscillation qui passe à un mouvement de circulation. Et disons qu'une composante qui est en jeu ici, en fait, c'est deux fois le périhélie de la Terre, en gros, moins le périhélie de Mars, moins le nœud de la Terre, moins le nœud de Mars. Et c'est cette combinaison compliquée, disons, qui a ce mouvement-là de transition de l'un à l'autre. Alors, est-ce que ce ne serait pas possible de retrouver ça dans les mouvements planétaires? Alors, vous avez vu, hein, les mouvements, je vous ai montré un peu les orbites, vous voyez, ce n'est pas facile quand même de voir quelque chose, de distinguer même un mouvement régulier d'un mouvement chaotique. Mais alors, donc, évidemment, si on a des observations géologiques, elles vont être très imprécises. Mais voilà ce qui se passe dans les termes, disons, qui viennent... La composante de l'insolation qui vient de l'obliquité, voilà la variation d'obliquité, ça c'est la variation de l'obliquité de la Terre, hein, autour de 23 degrés, ici c'est sur 20 millions d'années. Et en fait, il y a deux fréquences principales dedans, qui vont être la fréquence de précession de l'axe de la Terre, plus une fréquence planétaire, hein, celle-là, plus, et l'autre terme, ça fait à peu près 41 000 ans, et puis l'autre terme, c'est cette même fréquence, donc 26 000 ans, plus une autre période planétaire qui, là, vaut 39 000 ans. Et en fait, comme ces fréquences sont proches, ces périodes sont proches, ça crée un battement entre les deux. Vous voyez bien, vous avez un battement ici, vous avez un battement entre les deux, et la période de ce battement, ben, c'est la différence de ces deux fréquences, ça donne une période d'un million et demi, d'un million virgule deux années. Donc, vous voyez bien, c'est très dur de mesurer précisément cette fréquence-là. Mais c'est beaucoup plus simple de retrouver la différence des deux. La différence des deux, finalement, c'est une période très longue et c'est un phénomène d'assez grande amplitude. Vous le voyez bien visuellement sur ce dessin. Et de la même manière, dans une autre partie de l'insolation, qui est plutôt donnée par la précession en fait, de l'orbite de la Terre, on a ces deux composantes qui sont des termes dominants qui donnent un autre battement qui a une période de 2,4 millions d'années. Et vous voyez bien pourquoi est-ce qu'on est en résonance actuellement, c'est parce que ça, c'est le double de celui-là. Et c'est ça qui vous donne finalement ce mouvement de résonance. Actuellement, on a un mouvement, disons, comme un mouvement de pendule là. Mais si on... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait espérer trouver comme observation finalement? Ce serait trouver une variation dans ce mouvement, trouver un passage de cette oscillation à une circulation de ce genre-là, ou un changement complètement de fréquence, ou un passage d'une fréquence ici qui est la moitié de celle-là à un endroit où elle serait égale. Alors, est-ce que ça, c'est observable dans le signal géologique? Eh bien, voilà un enregistrement géologique récent. Hein. Ça, c'est... Cet enregistrement géologique, ici, ça correspond de 12 à 28 millions d'années. C'est une carotte sédimentaire prise dans des océans comme celle-là. Et en fait, ce qu'on voit ici, ça, c'est le spectre, hein, c'est le spectre de Fourier. Ça, c'est l'évolution dans le temps de ce spectre. Et ici, c'est le terme de 41 000 ans, et ça, c'est l'amplitude de ce terme-là. Et vous voyez bien un battement, le changement d'amplitude. Là, il est plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit. Donc, qui est en fait ce terme-là. Hein, et d'ailleurs, ça, c'est la même chose sur les données, de calcul. Donc, vous voyez bien que ce battement est observable dans les données. Alors, c'est quelque chose, c'est de la science qui commence juste, hein, mais ça excite beaucoup les gens parce que ça veut dire que ce serait peut-être possible, finalement, à travers des données aussi imprécises que ces tas de boue, hein, de retrouver une contrainte sur le système gravitationnel à 10-20. Voilà, ben, je vais m'arrêter là, merci.
Bien, merci pour ce concert. Et je suppose que vous avez des questions à poser à Jacques Lascar. Donc n'oubliez pas que cette conférence est enregistrée. Donc si vous avez une question à poser, vous attendez un tout petit peu que je vous passe le haut-parleur, le micro. Oui ? Pouvez-vous vous approcher un petit peu ou faire passer le micro ?
Oui, bonsoir. J'ai eu l'impression tout à l'heure que sur la diapositive, ou plutôt le transparent, où étaient situées les variations de l'obliquité de Mercure, j'ai cru comprendre ça en tout cas, et percutait non seulement Vénus, mais aussi la Terre. Est-ce que je me trompe ?
Ah non, ici ?
Oui, c'est ça.
En fait, ce qui est dessiné, c'est pas parce que les courbes se coupent. Hein. Ce qui est dessiné, c'est donc l'excentricité. Hein. C'est donc le décalage. L'excentricité, c'est la distance entre les deux foyers, en gros l'aplatissement de l'ellipse. Donc ça veut dire que la Terre, on n'est pas dans l'espace physique, hein. La Terre, elle, garde une excentricité faible, donc elle reste presque circulaire, mais Mercure a une excentricité qui devient de plus en plus grande, jusqu'à atteindre presque 0,9, et donc à ce moment-là, pouvoir venir couper l'orbite de Vénus. Voilà, c'est ça que ce dessin veut dire. On n'a pas une intersection effective des orbites. Ce n'est pas un dessin des deux orbites.
Des calculs de formation des systèmes planétaires montrent que les planètes géantes comme les planètes joviennes ont tendance à se rapprocher de l'étoile centrale.
Oui, hein. Ça, c'est dans les périodes de formation, en fait. Ça, c'est... Et donc là, ce dont je parle ici, c'est un petit peu une fois qu'on a un système qui est formé. C'est après les 500 premiers millions d'années ou quelque chose comme ça, on a un système formé et donc on n'a plus de gaz, on n'a plus de dissipation. Les manières dont se déplacent les orbites planétaires dans le début de la formation des systèmes, c'est dû soit à la présence de gaz qui entraîne une dissipation, soit de multiples collisions, hein, beaucoup d'impact au début, qui entraîne aussi un phénomène analogue.
Qu'est-ce qui aurait empêché Jupiter de se rapprocher du Soleil, par exemple ? Dans le cas du système solaire, c'est parce qu'on observe.
Manière, non, mais
Jupiter a l'air d'être une exception.
Toutes les théories de migration de planètes, d'abord, ce sont des choses qui sont encore embryonnaires. Hein, c'est plutôt les gens, ils arrivent à faire bouger les planètes, ils n'arrivent pas à les arrêter. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous les systèmes. Hein. Le système solaire, ce n'est pas formé de cette manière-là. Hein. Même s'il y a dû y avoir au début... Disons que si on forme... même s'il y a dû y avoir... disons, ce dont on peut être sûr, c'est que quand le système solaire s'est formé, si vous voulez, il y avait sûrement au début de formation plus de planètes. Hein. C'est-à-dire que si on... Une chose qui est intéressante, c'est si on regarde, par exemple, les excursions maximales possibles des planètes, comme ça, dues à la diffusion chaotique des orbites actuelles. On regarde ceci, et on regarde ce que ça donne dans le système solaire interne. Voilà ce qu'on trouve. C'est-à-dire, on trouve que Mars peut bouger beaucoup, mais pas venir cogner la Terre. La Terre bouge comme ça. Ça, ce qui est dessiné ici, c'est la zone balayée par l'orbite à son excentricité maximale. Vénus bouge de cette manière-là et Mercure peut aller jusqu'à venir... Le trait noir, c'est l'orbite circulaire. L'orbite peut venir jusqu'à couper celle de Vénus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place qui reste ici. Si vous rajoutez une planète ici, entre la Terre et Mars, elle va bouger aussi, elle va venir cogner l'une ou l'autre, ou être éjectée. Ce qui veut dire qu'on pouvait très bien, en fait, ce qui s'est sans doute passé, c'est qu'au début de la formation du système solaire, il y a eu plus de planètes de formées, mais en fait, ces planètes sont venues entrer en collision. Le système était donc encore plus instable, donc plus vous rajoutez de corps et plus vous allez avoir un système instable, et ces planètes sont venues entrer en collision avec les planètes existantes. Et bon, par exemple, si vous aviez un corps de la taille de Mars entre la Terre et Mars, ça peut très bien former, ça peut très bien venir impacter donc la Terre et donner lieu, donner un impacteur pour la Terre qui va être à l'origine de la formation de la Lune. Donc ça, c'est... Je dirais que maintenant, pour le système solaire comme ça, on a une vision qui est assez cohérente, où je vous ai montré l'autre dessin ici. Vous voyez bien que pour tout l'ensemble, soit ça c'est la vision à très long terme, ça c'est la vision à court terme, on n'a pas, en gros, là où il n'y a pas de corps en permanence, c'est instable, et là où c'est stable, il reste des corps. Donc on a une vision où finalement on a une accrétion des corps, des petites particules qui forment des plus grosses, et tout ça c'est assez instable. À chaque collision, on a des collisions, et à chaque collision, le système devient plus stable. Alors bien sûr, toutes ces collisions au début entraînent des orbites qui peuvent bouger un peu, mais finalement, on va avoir un système qui va se stabiliser un peu comme ça, naturellement, à la suite de ces collisions multiples.
Votre explication, donnée à l'instant, m'amène à me demander pourquoi il existe encore entre Mars et Jupiter des petits astéroïdes, parce qu'il y a toute une ceinture là.
Ben oui,
ce sont des corps très faibles.
Là, ici, on est à la limite. On est à la limite de la... Parce qu'il y a plusieurs effets qui jouent. Hein, parce que ici, on est à la limite de la ceinture des astéroïdes. Là. On est à la limite de la ceinture des astéroïdes. On est à la bordure extérieure. Oui, alors, ils ne sont pas liés... Ils ont une faible masse, oui, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on a une faible masse qu'on peut bouger beaucoup, en gros. Hein. Je dirais que c'est plutôt... Dans le système solaire interne, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce système solaire interne, à long terme, il est fortement chaotique. Et les orbites ne sont bornées que... Hein, on peut montrer que les orbites, finalement, elles bougent comme elles veulent. Elles ne sont pas bornées par la dynamique dans ce système solaire interne. Elles peuvent bouger autant qu'elles veulent, à condition de respecter une conservation d'une composante du moment cinétique. Et c'est uniquement cette composante du moment cinétique qui borne leur mouvement. Ou plus précisément, elle bouge jusqu'à la limite de cette borne qui est donnée par cette composante du moment cinétique, ce qui montre qu'elles ne sont pas bornées tellement par leur dynamique. Alors que là, les orbites, elles sont, je dirais, relativement stables et elles sont pas, elles n'ont pas ce mouvement de chaos fort à long terme, qui est présent dans ce système séculaire, dans ce système solaire interne.
Excusez-moi, mais je crois quand même que je suis encore dans le même questionnement. Qu'est-ce qui permet à cette... Enfin, la question serait, est-ce que cette ceinture d'astéroïdes est stable ou pas? Pourquoi sont-ils là?
Pourquoi ceux-là sont là? Parce qu'en fait, ils sont, disons, ce diagramme-là, c'est l'interaction à court terme. Donc s'ils sont en bleu, c'est qu'ils n'ont pas de perturbation à court terme. Donc, ils ne sont pas perturbés à court terme. Et on n'a pas ici énormément de perturbations à long terme, comme c'est le cas ici, où on a plein de perturbations à long terme. Donc, en fait...
Curiosité d'expérimentateur, moi quand je vois des belles sinusoïdes comme vous les avez fait écouter, enfin un ensemble de fréquences, dirions-nous, est-ce que vous avez essayé de les mélanger entre elles pour voir si vous n'auriez pas des battements qui apparaîtraient, des battements à très longue période?
Non mais elles sont déjà pas mal mélangées.
Oui, mais comme le système solaire c'est un véritable orchestre, donc ça joue ensemble tout cela.
Oui, mais bon, les battements, ben, on voilà, des battements. C'est ça, ce genre
oui,
de battements.
Oui, mais c'est des battements
période.
Individuels, là.
Ça, ce sont des battements.
Oui, bien sûr. Mais je parle de tout le système dans sa globalité. C'est un orchestre.
Non, mais c'est tout couplé, là, déjà. Parce qu'en fait, chaque mouvement d'une planète, dis donc, une planète... Ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement orbital d'une planète est dominé par une seule fréquence, hein, qui est son mouvement, sa période autour du Soleil. Donc en fait, quand on regarde, c'est perturbé, ça bouge un petit peu, mais c'est essentiellement dominé par une seule période. Les mouvements des orbites des planètes, ça se voyait finalement assez bien sur le dessin de tout début là, de la place là, que j'ai montré pour l'orbite de Jupiter. Le mouvement à long terme des planètes n'est pas un mouvement qui est dominé par une seule période. Vous voyez, ce mouvement ici, en fait, c'est entre Jupiter et Saturne, si vous voulez, mais vous avez ces deux composantes, donc celle-là puis celle-là. Il y a vraiment les deux qui comptent. Vous supprimez Saturne, plus rien ne bouge. L'orbite devient keplérienne. Vous rajoutez Saturne, vous avez deux fréquences dans le mouvement. Une qui est, vous pouvez dire, considérée que vous aurez autant de fréquences, en gros, que de planètes. Mais le mouvement de chaque planète dépend vraiment de, bon, plus ou moins, mais dépend vraiment de toutes les fréquences de ces planètes. Et en fait, ça fait que ce mouvement à long terme des planètes, la manière dont bougent les orbites, est assez dur à comprendre de manière intuitive parce que c'est vraiment un système couplé entre toutes les planètes.
Merci. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. La première est en rapport avec les comètes. Les comètes qui proviennent de ce que vous appelez la ceinture de Kuiper.
Oui.
Considérez-vous qu'elles proviennent d'une sphère ou bien d'un tore qui serait placé en quelque sorte plus ou moins sur le plan des autres planètes? Et ma seconde question a rapport avec, comment dire, vous imaginez dans le temps, dans des périodes très longues, vous parlez de 100 millions d'années et d'un milliard d'années. Considérez-vous que le système solaire se déplace dans un environnement uniforme ou bien ce système solaire, dans son déplacement dans la galaxie, ne rencontre-t-il pas de temps à autre des formations que l'on appelle plus ou moins des nébuleuses qui pourraient modifier le système planétaire? Merci.
Bon, alors, disons que là, les objets, en fait, les objets de Kuiper, hein, ce qu'on voit ici, c'est les objets qui existent, ceux qu'on observe, hein, qui sont stables actuellement, on les observe ici. Hein, donc, Pluton est ici en rétonnance, on les observe par ici, parce que c'est les endroits. Donc, cette zone de stabilité, là, on les observe dans les zones de stabilité qui est ici. Cette zone de stabilité, elle se continue très loin. Plus on s'éloigne, finalement, on a plein de résonances. Les zones noires sont des résonances, mais on a une zone très stable dans le plan de l'orbite. Et à la limite, on peut... Maintenant, on ne connaît pas, hein, on n'a pas d'observation, on ne sait pas bien. Donc très loin, on a le nuage de Oort, mais jusqu'où s'étend finalement la distribution de ces objets de Kuiper, on ne le sait pas très bien. Ça, c'est pas... Il faudra d'autres observations. Et les objets, finalement, qui arrivent dans les comètes à longue période, c'est ceux qui s'échappent par les zones moyennement chaotiques, ici.
Donc, si je comprends ton schéma, tu mettrais Pluton où, là, dans ton schéma?
Oui, si, dans celui-là.
Non, dans ton schéma, là-bas. Là, j'ai vu, là, mais...
Bah, je sais
ici.
Pas, moi.
Là.
Je sais pas où il est. Actuellement, bon, on a Pluton là, on a quelques objets un peu par là, et puis c'est tout. Hein, on sait pas.
Donc,
ce
tu favoriserais plutôt l'idée d'un tore, si je comprends bien, non?
D'un tore. Attends, ah, non, on est dans un plan, là, c'est une coupe du plan.
Oui, je comprends bien, mais
donc, on a
l'ensemble des systèmes des objets de Kuiper formerait quoi? Un bourrelet?
Ah ben non, ça va continuer de s'étendre, mais la distribution, la forme de la distribution à la fin, ça, on ne la connaît pas encore. Faudrait demander plus... Non.
Ah oui, la deuxième question.
Ah, la question, alors, le problème sur qu'est-ce qu'on peut rencontrer...
Le déplacement de l'ensemble du système solaire.
Alors, le système solaire, bon, ce qu'il faut voir, c'est que Bon, bien sûr, on peut rencontrer... moi, je ne sais pas ce qu'on a rencontré pendant 5 milliards d'années en se baladant. Ça, c'est justement... on peut toujours rencontrer... Il peut toujours y avoir des événements catastrophiques. C'est un peu, finalement, ce que faisait Laplace au début. Il n'y arrivait pas par le calcul. Alors, il disait, ah ben peut-être, les comètes vont me fournir des événements catastrophiques qui vont permettre d'expliquer cette différence entre les observations et les calculs. Là, c'est pareil, hein. Il peut toujours y avoir un événement catastrophique, une étoile qui entre, qui passe à grande vitesse et qui induit une variation des orbites planétaires. Mais bon, je dirais qu'en l'absence de... De toute manière, ce que je dis là, c'est qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est pareil, il n'y a pas besoin de... Alors on peut calculer, on peut s'amuser, on peut prendre une étoile, on peut regarder, la faire traverser le système planétaire et regarder si ça va entraîner des grosses variations. Bon, si on trouve que ça détruit tout, alors c'est un peu gênant, on dira, ben non, ça c'est pas possible. Et puis, si on trouve que ça n'affecte qu'un tout petit peu, bon, on dira, c'est possible. Et puis, comme on n'a pas d'observation sur ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années ou il y a 4 milliards d'années, suffisamment précise, et ben tout sera possible. Mais bon, c'est tout.
Oui. Est-ce que la présence de la Lune autour de la Terre, est-ce que le système double Terre-Lune est plutôt plus stable que la Terre toute seule ou pareil ou dans l'autre sens?
Alors, pour ce qui est du problème, pour ce qui est du mouvement orbital de la Terre, ça ne change pas grand-chose. Le mouvement orbital, disons que l'effet de la Lune sur le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil, il est à peu près de l'ordre de la relativité générale sur le mouvement de la Terre. Donc c'est un tout petit effet qui bouge un tout petit peu ses fréquences principales, mais pas énormément. Par contre, pour ce qui est de l'axe de la Terre, là c'est fondamental la présence de la Lune. Et d'ailleurs, on pourrait, il y a une question intéressante. Cette question intéressante, c'est quel est le futur des paléoclimats, finalement. Alors, je vous ai dit que les paléoclimats, finalement, les climats du passé, sont dus à la variation de l'obliquité de la Terre, hein, qui induit des variations, alors ça c'est 1,5 degré, ça induit des variations de 20% dans l'insolation à la surface de la Terre, et ça a entraîné les périodes glaciaires. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que donc la Lune, par effet de marée, on a une dissipation dans le système Terre-Lune, et très doucement, la Lune s'éloigne à raison de 3 cm 8 par an, et en même temps, la Terre ralentit. Alors, la Lune, donc là, c'est la Terre actuelle, donc on a la Terre, ça c'est l'orientation de l'axe de la Terre, hein, donc là on est à 23 degrés, et puis la courbe en noir ici, c'est la variation de cette obliquité, variation de l'orientation de l'axe de la Terre. Et ça, c'est le temps ici. Alors, au fur et à mesure que le temps s'écoule, là en milliards d'années, eh bien la Lune s'éloigne et du coup la période de précession de l'axe de la Terre diminue. Cette période de précession diminue, enfin la période augmente, la fréquence diminue. Et à un moment donné, on arrive à être en résonance avec les périodes d'excitation planétaire. Ces périodes d'excitation, actuellement, elles sont responsables de cette petite oscillation-là. Et vous voyez, on a une oscillation qui reste petite jusqu'à ce qu'on vienne arriver ici, où la période d'excitation est du même ordre que cette période de précession, c'est-à-dire quand ça devient à peu près 75 000 ans ou 50 000 ans. Et à ce moment-là, on a un mouvement chaotique, mais là, qui est maintenant, pas comme sur les planètes, un mouvement chaotique relativement modéré, là, on a un mouvement chaotique de très forte ampleur sur l'axe de la Terre, qui fait que cet axe n'est plus du tout stable, mais en gros peut varier de 0 à 90 degrés de manière chaotique. Et c'est ce qu'on voit ici, la Terre peut monter ici à 90 degrés, revenir à 0 degrés, et comme ça osciller. Donc là, on aura des beaux enregistrements climatiques, parce qu'on aura vraiment des bonnes traces possibles pour ces variations climatiques.
Bon, eh bien, couvrez-vous. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à Jacques Lascar? Je croyais qu'il y avait une main qui s'était levée là. Non? Oui?
Oui, vous avez dit que en perturbant très peu, on peut arriver à de gros écarts. Alors, est-ce qu'on peut perturber très peu pour qu'à long terme ou à moyen terme, Mars se rapproche de la Terre, par exemple?
On n'arrivera pas. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En perturbant très peu, donc ce qu'on perd très vite, là, ce qu'on peut changer complètement, c'est en gros les variables de type angle. Donc, on pourra, en perturbant très peu, disons, changer l'orientation de l'orbite de la Terre. Maintenant, pour arriver à faire, une chose qu'on n'arrivera pas à faire, c'est à changer le grand axe de l'orbite de la Terre ou de Mars. Pas de manière, disons, on ne peut pas le changer tant qu'on n'a pas des rencontres proches. Maintenant, si on change un tout petit peu, on pourrait se dire, est-ce qu'on arrive à augmenter l'excentricité de Mars, hein, ici, pour entrer en collision avec la Terre, hein? La même chose que j'ai fait pour Mercure, est-ce qu'on peut le faire pour Mars? Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai essayé en gros de toutes les manières possibles, et moi, je n'y suis pas arrivé. On arrive à proche de les deux arrivent assez proches, hein, on arrive à une excentricité de 0,25 pour Mars, à 0,3 on a la collision, donc ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible, parce que là, ici, dans ces systèmes d'équations, on a négligé certaines interactions, hein, qui sont les interactions à courte période. Donc, ce n'est pas impossible qu'une fois qu'on a monté l'excentricité de Mars à 0,25, on n'arrive pas, par des phénomènes de résonance maintenant en moyen mouvement, à arriver à cogner la Terre. Mais ça prendra du temps, quoi.
C'est-à-dire c'est, les calculs ben, prendront du temps ou la
non, les échelles de temps, ici, c'est en milliards d'années. Donc, on voit que le type de variation voilà. Typique, un peu, il faut plusieurs milliards d'années pour augmenter de manière significative l'excentricité de Mars. Alors, on peut, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est faire évoluer une orbite de Mars jusqu'à arriver en forte excentricité, mais après avoir un système d'équations plus complet que celui que j'ai ici. Il faut voir que ce problème-là, il est encore hors de portée des ordinateurs actuels si on intègre directement les équations de Newton. Hein. Ça, c'est, si on met toutes les planètes avec les équations de Newton de manière directe, on a encore du mal à l'intégrer avec un ordinateur directement.
Oui, une dernière question. Attendez, j'arrive.
Oui, il y a quelques années, peut-être une quinzaine ou une vingtaine, le monde des astronomes s'était fait des frayeurs du fait que l'ensemble des planètes étaient plus ou moins en alignement et donc toutes du même côté du Soleil.
Oui.
Et en fait, autant que je sache, il ne s'est rien produit. Quelle était la problématique à l'époque?
Je ne pense pas que les astronomes étaient très effrayés. Ce n'est pas les astronomes qui étaient effrayés. Parce que c'était les astrologues, c'était les gens qui accordent une vue symbolique aux choses. Hein, si on calcule l'effet de marée ou la perturbation, elle ne va pas changer énormément. D'ailleurs, dans ce que je vous montre ici, ce qui est bien plus, en fait, qui a un effet bien plus important, par exemple ici, la chose qui permet, vous voyez là, finalement, comment ça peut se résumer ça? Ben, vous avez la Lune, si vous enlevez la Lune, la Terre se trouve là-dedans et peut bouger n'importe comment. Donc là, ça c'est un effet physique, hein. Ça vient des effets de marée, vous calculez, vous arrivez à ça, c'est parce que la Lune est grosse. C'est pas parce que la Lune est là, c'est pas parce que la Lune s'appelle la Lune ou qu'elle est en orbite autour de la Terre. Si je mettais une Lune beaucoup plus petite, ça ne changerait rien, hein. Donc la masse compte pour beaucoup. Alors là, vous voyez, en résumé, ça dit que la Lune empêche les planètes de détraquer le climat de la Terre. Alors ça, disons que c'est, à mon avis, un effet important, hein, mais qui ne vient pas de la valeur symbolique du nom qu'on a attribué aux planètes. Oui, Mars. Mars a une orientation qui est chaotique et qui peut bouger. Disons que Mars, c'est le même dessin qu'ici, sauf que ça se trouve un peu en bas. Donc l'axe de Mars n'est pas fixe, mais peut bouger de 0 à 60 degrés.
À cause de Phobos et Deimos?
Non, non.
Ou autre chose?
Disons que Phobos et Deimos, ça compte pour rien là-dedans, parce que c'est des masses toutes petites. Ça changerait, on mettrait des masses, des lunes comme Phobos et Deimos autour de la Terre, ça donnerait absolument rien, on serait là-dedans, on bougerait, on aurait une belle... Là, je vous aurais fait entendre la musique, là, ça change beaucoup. Non, donc pour Mars, on a... Après, ça dépend de la vitesse de précession. Ce qui compte, c'est la vitesse de précession de l'axe de la planète. Pour Mars, on est loin du Soleil, donc on a une vitesse de précession faible. On est à peu près ici pour la vitesse de précession. Et donc, on a une obliquité qui va bouger chaotiquement entre 0 et 60 degrés. Et ce qui entraîne des très fortes variations climatiques à la surface de Mars. Il y a eu des grosses, aussi bien on a eu des grosses variations d'excentricité, hein, puisque l'excentricité de Mars peut bouger beaucoup plus que sur la Terre, on a eu des grosses variations de l'orientation de l'axe de la Terre. Actuellement, l'axe de Mars est à 24 degrés, mais c'est juste une coïncidence, ça ne va pas rester, et ce n'était pas la même chose dans le passé, ce ne sera pas la même chose dans le futur. C'est juste par hasard que c'est maintenant à peu près comme sur la Terre.
Très bien, merci pour toutes ces questions, merci pour les réponses, Jacques, et bravo. Merci, rendez-vous le mois prochain donc pour une conférence par notre ami François Boucher.